pour mieux comprendre l'économie. Bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
Bonjour et bienvenue au balado Le Planif. Bonne nouvelle, notre podcast est encore au sommet du palmarès des podcasts d'Apple, catégorie affaires en français, et ce, pour le Canada. Alors, merci de votre grande fidélité. En fait, statistique, bien, on peut dire qu'on a presque touché les 400 000 écoutes depuis qu'on a créé le balado Le Planif. Cette édition variée va retracer l'origine des paradis fiscaux avec Isabelle Junot. On répond à la question du beau-frère de Ludovic sur la pertinence du choix des investissements dans le CELI App. Qu'est-ce qu'on met là-dedans, un CELI App? Des actions, des FNB, des fonds ou juste un compte à intérêt élevé? Notre invité de la semaine est le journaliste Stéphane Desjardins. Auteur de 6 livres et guide en finances personnelles, il vient de lancer le guide ultime pour les futurs acheteurs de maisons. Alors, il faut louer ou acheter? Avec les récentes montées des taux directeurs, est-ce que louer est devenu plus approprié que d'acheter son domicile? On le saura avec cet entretien avec Desjardins. Stéphane répond à la question cruciale et en profite pour écorcher ceux qui estiment que l'immobilier est un investissement sans risque. Le balado Le Planif débute à l'instant.
Des échappatoires fiscales controversées ont une histoire complexe qui s'étend sur plusieurs siècles, leurs origines remontant à l'époque où les marchands et les banquiers cherchaient des moyens d'éviter les taxes lourdes imposées par les royaumes et les États. Avec le temps, ces pratiques ont évolué pour devenir des systèmes sophistiqués exploités par des individus fortunés, des multinationales et même des gouvernements. L'essor des paradis fiscaux modernes peut être attribué à des figures telles que Siegfried von Clary Aldringen, un banquier autrichien qui, dans les années 1920, a aidé à transformer le Liechtenstein en un havre pour les fortunes échappant à la fiscalité. Dans les années 1960, les Bahamas et les îles Caïmans ont commencé à attirer les capitaux internationaux grâce à des lois fiscales avantageuses et à une réglementation bancaire souple, devenant des centres financiers internationaux. Les stratagèmes utilisés sont variés et sophistiqués, incluant les sociétés écrans, les trusts offshore et les transferts de prix permettant aux entreprises et aux individus de déplacer leurs revenus vers des juridictions à faible ou nul impôt, minimisant ainsi leurs obligations fiscales dans leur pays d'origine. Ces pratiques ne sont pas toujours illégales, mais elles posent des questions éthiques importantes. L'existence des paradis fiscaux nuit aux populations des pays occidentaux et au-delà de plusieurs manières. Premièrement, elle sape les bases de l'équité fiscale car les citoyens moyens et les petites entreprises paient leur part d'impôts tandis que les plus riches et les multinationales exploitent des lacunes pour réduire leurs charges fiscales. Cela entraîne une perte de revenus significative pour les gouvernements, estimée à des centaines de milliards de dollars annuellement, limitant leur capacité à investir dans des services publics essentiels comme la santé, l'éducation et les infrastructures. En outre, cette évasion fiscale contribue à l'augmentation des inégalités économiques, un enjeu majeur dans de nombreuses sociétés. Au fil des années, la pression internationale s'est accrue pour combattre l'utilisation des paradis fiscaux, menant à des initiatives telles que l'échange automatique d'informations fiscales entre pays et la mise en place de listes noires de juridictions non coopératives. Cependant, malgré ces efforts, les paradis fiscaux restent une composante persistante de l'économie mondiale, leur avenir étant étroitement lié au défi de la régulation financière internationale et à la volonté politique globale de s'attaquer à l'évasion fiscale.
Le balado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
Au balado Le Planif, on rejoint mon ami Stéphane Desjardins. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Hey Stéphane.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Tu es en Géorgie en ce moment. Est-ce que tu couvres les procédures judiciaires de Donald Trump?
Non, mais je les vois passer. Évidemment, c'est le genre de choses qu'on entend tous les jours dans les médias ici.
OK. Alors, tu es allé faire du télétravail en Géorgie, si j'ai bien compris.
En fait, c'est une tentative. Ça fonctionne assez bien. Dans notre métier, journaliste, dès qu'on a de l'Internet haute vitesse, la vie est belle.
Alors, Stéphane Desjardins, pour ceux qui ne le replacent pas immédiatement, il est chroniqueur pour le Journal de Montréal, un bon ami depuis plusieurs années. Il a été aussi à la tête de Finance Investissement, ce qui fait que les finances, ils baignent dedans, comme Astérix et Obélix dans la potion magique. Et Stéphane, tu as écrit combien de livres jusqu'à maintenant dans ta carrière?
Six ou sept livres, là, j'ai un guide un roman de science-fiction et le reste, c'est des guides de finances personnelles et un livre sur l'histoire d'une famille d'immigrants, les Fermagnans, qui ont parti à un cinéma à Sainte-Adèle. C'est une vraie saga.
Oui,
Voilà.
j'invite à tout le monde à aller voir Dune 2 ou d'autres bons films comme ça au cinéma Pine.
Que tu
L'ambiance
fréquentes,
familiale.
d'ailleurs.
Oui, je
Tu le
fréquente le cinéma
fréquentes.
Pine,
Oui,
effectivement.
absolument.
J'adore ça, c'est tout petit, c'est familial. Puis les Laurentides, des villages comme Sainte-Adèle, c'est tellement pittoresque et charmant, là, ça vaut la peine. Stéphane, on parle
Voilà.
de ton plus récent bouquin, ton plus récent ouvrage. J'ai l'impression que ça va être un hit, ça va être un beau best-seller au Québec. Louer ou acheter sa propriété en 2024? Alors, c'est le titre, c'est louer ou acheter, hein?
Ben, je le présente comme le guide ultime en la matière, dans un contexte de crise du logement où, évidemment, être locataire représente une réalité de plus en plus difficile et complexe pour nombre de Québécois et où être propriétaire est une aventure qui semble être de plus en plus difficile à atteindre.
Et dis donc, pourquoi avoir sorti un guide comme ça pour l'achat d'une propriété? Est-ce que c'est une question qui turlupine trop de monde?
Ah oui, ah oui. C'est parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui se posent la question, est-ce que je peux être capable de continuer comme ça? Il y a des gens qui se font jeter dehors de leur logement, qui se trouvent pas de logement, qui cherchent une voie dans leur vie. Les aléas de la vie font qu'à un moment donné, tu es à un carrefour et tu te poses la question, coudonc, je devrais-tu m'acheter un condo ou une maison? Mais évidemment, c'est la plus importante dépense de notre vie après l'impôt. Alors, on se dit, coudonc, comment je vais m'y prendre? Ben, il faut se préparer. C'est un peu, d'ailleurs, ce que tu m'as appris au fil des ans avec tes propres guides et tes propres chroniques, Fabien. J'applique un principe qui nous est cher tous les deux. Faut se préparer dans la vie.
Oui, c'est vrai, il faut se préparer. Faut se préparer pour répondre à des bonnes questions comme être propriétaire, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Et si je résume un peu ce que je lis à l'envers de la couverture arrière de ton guide, l'acquisition d'un bien immobilier représente souvent l'investissement le plus important d'une vie et c'est un caractère, ça relève un caractère émotif à une époque de la crise du logement comme on vit en ce moment, puis c'est presque planétaire, c'est très difficile de se brancher. Et il y a des données intéressantes, Statistique Canada, c'est récent, 2022, 60% des Québécois sont propriétaires. Ah ben ça, c'est une surprise, mais c'est une proportion qui est en baisse. Comment on peut l'expliquer? Pourquoi les gens sont moins propriétaires?
C'est la démographie. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent ici. Le Québec est proportionnellement, là, en fonction de sa population, la province qui accueille le plus d'immigration, beaucoup de réfugiés, beaucoup de réunification de familles. Je n'ai pas besoin d'en parler. On en parle dans les médias continuellement. Le gouvernement se plaint. Le gouvernement Legault se plaint du manque d'appui du fédéral pour financer tous ces nouveaux arrivants-là. Il y a une pression. Il y a aussi le fait que c'est compliqué, hein, ces questions-là. Il y a les baby boomers qui veulent pas quitter leur maison parce que où iraient-ils? Ça coûte aussi cher, sinon plus, d'acheter ailleurs, soit un chalet, soit de s'installer dans une résidence, soit de s'acheter un condo. Donc, ça crée une pression sur le marché immobilier qui est immense. Et toi-même, tu me l'as dit pour ce livre que je viens d'écrire, il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons pour les louer. Il y a un marché spéculatif qui grandit dans le marché immobilier. Pour toutes ces raisons, c'est compliqué d'acheter une maison. Il y a aussi la pression d'Airbnb. Il y a toutes sortes de situations où les gens ont de la misère, par exemple, à rénover leur maison ou leur duplex et veulent le vendre. Bon, c'est compliqué en 2024 de devenir propriétaire, mais ça se fait. Il s'agit, comme je le répète, de se préparer.
Oui, on se prépare, mais aussi on peut balayer du revers de la main les stéréotypes, les clichés. Et qu'est-ce qu'on entend le plus souvent de ce côté-là qui, des fois, est discutable, Stéphane?
Bien, le statut de locataire, souvent on considère qu'un locataire, c'est un loser, c'est un nobody, c'est un pauvre, c'est un perdant. Alors que beaucoup de gens très riches sont locataires et décident de l'être, de le devenir pour toutes sortes de raisons. Beaucoup de locataires aussi sont locataires pas par choix, mais par obligation et pas nécessairement parce qu'ils sont pauvres. Vous êtes étudiant, vous êtes un professionnel en début de carrière, ça vous tente-tu vraiment d'acheter un condo dans ces conditions? Il y a aussi le fait qu'il faut quand même ramasser un certain montant d'argent pour faire une mise de fonds, pour acheter sa propriété. Ça prend un certain temps pour faire ça et il faut en avoir les moyens. Quand on est jeune, on n'est pas nécessairement capable de mettre 100, 200, 300 piastres de côté par paye. Si on est sur les prêts et bourses, c'est la même chose. Donc, pour toutes ces raisons, évidemment, c'est pas simple de devenir propriétaire. Il y a aussi le statut de propriétaire. Malheureusement, on pense que parce que tu es propriétaire, tu es quelqu'un. Pour les institutions financières, c'est vrai. Quand on est propriétaire, on est quelqu'un. Mais évidemment, dans notre société où tout le monde essaye de flasher et de faire de bien paraître sur les réseaux sociaux ou en société, le statut de propriétaire est le meilleur moyen. Hein? Tu connais le principe du voisin gonflable. On affiche son statut de propriétaire. Notre maison est la plus belle sur Instagram. On voit ça beaucoup à notre époque.
Oui, alors être propriétaire, c'est beaucoup de, je pense, des obligations, des engagements qui sont sous-estimés. Et j'imagine que dans le guide, on peut voir aussi la série de Tant qu'à y être, que le propriétaire qui veut se comparer, qui veut étaler sa propriété, il s'embarque dans un engrenage souvent. Il y a des surprises, ça vient à coûter beaucoup plus cher qu'un loyer.
Écoute, acheter une propriété, là, moi je dis dans mon guide que être à loyer, un loyer, là, c'est le maximum que tu vas payer pour te loger. Avoir une hypothèque, c'est le minimum que tu vas payer pour te loger. Outre l'hypothèque, il y a les taxes, les frais de condo. Si c'est un condo, il y a l'entretien, l'assurance. L'entretien, ça coûte extrêmement cher. Il y a évidemment tout ce qu'il faut pour décorer ta maison ou ton condo. Juste en rideau, ça peut te coûter 2-3 000 $. L'aménagement paysager, ça finit plus à chaque année. Il y a des études économiques faites par un prix Nobel ou d'autres spécialistes aux États-Unis qui disent qu'une fois que tu tiens compte de tous les frais, ton rendement sur l'investissement est proche de zéro avec une maison. Alors que si tu mettais autant d'argent, tu sais, on dit souvent les baby boomers ont acheté une maison à 20 000 $ dans les années 60 puis à revendre 700 000 cette année. Ben, il y a plusieurs études qui disent que si tu avais mis tout cet argent que tu as mis dans ta maison, tu l'avais mis dans un fonds commun équilibré ou un FNB indiciel, tu aurais plusieurs millions dans tes poches. Donc, la comparaison ne tient pas la route entre être à loyer et être un propriétaire du point de vue de l'investissement. La propriété est un très mauvais investissement. Ceci dit, et là je te vois venir, je le vois dans tes yeux, Fabien, tu me dis, ouais, mais pourquoi que les locataires investissent pas? Ben parce qu'on vit dans une société de dépenses et de consommation à outrance où la plupart des locataires ne mettent pas de côté la différence entre leur loyer et une éventuelle hypothèque. Et c'est pour ça que être propriétaire a quand même certains avantages du point de vue financier. C'est de l'épargne forcée, comme le dit le vieil adage.
Ouais. À quel âge tu es devenu propriétaire pour la première fois, toi, Stéphane?
Je suis devenu propriétaire loin dans ma trentaine.
D'accord, d'accord. Moi, dans mes
Hein,
découvertes, c'était dans la jeune vingtaine. Je pense que j'avais 23 ans. Et puis, j'ai eu un bon coup de pouce, une mise de fonds genre de 20 000. Mais qu'est-ce qui m'a renversé? C'est tous les coûts inhérents à ça. C'était le fun de la maison arriver avec une piscine, mais l'entretien de la piscine, surtout quand le chauffe-eau fait défaut, C'était quelque chose. La galerie, mon pied est passé au travers deux fois. J'ai dû changer le patio. Évidemment, on essaie de se débrouiller, mais les matériaux de construction coûtent une fortune. J'ai découvert aussi que sur le terrain, la nuit, j'avais des envahisseurs, des moufettes qui venaient chasser les vers blancs et qui ont scrapé le paysagement. Ben là, il faut commander de la tourbe à grandeur, puis mettre des formes d'herbicides. C'est des dépenses qu'un locataire n'a pas, là, puis ça s'additionne, ça
Absolument pas.
vient à des
Oui,
milliers de
oui.
dollars.
Oui, en fait, une maison, quand on dit que c'est d'épargne forcée, c'est d'épargne forcée. Ça, quand même, je dis que les propriétaires de maisons par rapport aux locataires, les études de Statistique Canada le prouvent, ils s'enrichissent, là, on va se dire les vraies affaires, ils s'enrichissent nettement mieux. Par contre, c'est plus difficile, évidemment, de pas tout mettre tes œufs dans le même panier, un vieux principe en investissement. Tu mets pas juste de l'argent dans ta maison, c'est toi-même qui me l'as dit pour ce guide. Il faut quand même continuer à épargner. C'est difficile, ça se fait. Et encore une fois, il faut le planifier. Mais ça entraîne un constat, c'est que la plupart des gens achètent trop grand leur maison et vivent dans trop grand. Donc, ça coûte cher à assurer, ça coûte cher à entretenir, ça coûte cher à chauffer, à climatiser, à tout ce que tu veux. Et surtout, c'est, vous me permettrez l'expression, c'est chiant à nettoyer. Concrètement, si on achète dans plus petit ou si on s'installe dans plus petit, désolé, si on achète près d'une ligne de banlieue, de train de banlieue, de métro ou carrément un condo en ville, on va probablement éviter d'acheter une deuxième ou une troisième voiture devant la maison et canaliser ces 20 000 $ que nous coûte ce deuxième véhicule-là annuellement vers l'hypothèque. Et justement, ça nous permet de s'enrichir plus facilement ou simplement de devenir propriétaire. D'autre part, évidemment, quand on vit dans moins grand, bien évidemment, on a moins de dépenses, donc on canalise un petit peu plus d'argent vers son épargne, à condition, évidemment, de ne pas succomber aux sirènes de la consommation en se payant un café tous les jours chez Starbucks. D'ailleurs, je te dis ça. Cet exemple-là dans mon livre, un café quotidien chez Starbucks, ça équivaut, si tu as un taux marginal d'impôt à 40 % et si tu es payé 15 $ de l'heure, à une semaine de travail pour te payer un café chez Starbucks par année. Alors imagine si tu mets cet argent-là dans ton hypothèque, quel bonheur.
Au mieux, acheter des actions de Starbucks.
Exact, comme le disait un vieux livre.
Bahamas.
Graham, ouais, disait, si tu veux venir riche, mais pas ton argent à banque, achète l'action de la banque.
Ouais, très sage décision. Stéphane, je te connais, quand tu as fait des recherches des fois, tu as dû lâcher des wow! C'est quoi tes découvertes qui t'ont ébahi, que tu ne savais pas, que tu as mis dans ton bouquin, le guide ultime pour prendre de bonnes décisions, louer ou acheter son immobilier?
Ben, tu sais, tantôt, tu me disais, Fabien, que les gens pensent qu'ils ne seront pas capables de se payer, que c'est dur de devenir propriétaire, etc. Tu n'as rien qu'à faire quelques petits calculs, puis j'ai réalisé que pour un petit peu plus que 350 $ par paye, un couple peut, en 3 ans, ramasser 100 000 comme mise de fonds pour une maison de 500 000. Ça semble être une fortune, mais en rognant, par exemple, sur les deux ou trois repas au restaurant qu'on se paye chaque semaine, la douzaine de bouteilles de vin par mois, ou différents petits plaisirs, ou simplement en coupant la ligne fixe pour juste garder son cellulaire, en laissant tomber les 92 canaux sur le câble, et en concentrant son offre de son abonnement de Netflix ou de Tout TV en. Tu sais, moi, j'en annule un, je passe au suivant. Quand j'ai passé à travers toutes les émissions que je voulais voir, je passe à l'autre service, j'annule le précédent. En faisant ce genre de décision-là, ben, je suis capable de me payer une maison. C'est incroyable. Aussi, en évitant de s'acheter un VUS. Un VUS, là, si tu utilises le calculateur CarCost de la CAA, tu te rends compte que ça te coûte extrêmement cher comparativement à une berline. Les gens ne peuvent pas s'empêcher d'acheter des grosses bagnoles, mais en s'achetant des petites bagnoles, ils s'enrichissent beaucoup plus rapidement en misant sur leur placement ou l'immobilier. C'est difficile, par contre, de faire ces décisions-là, mais ça se fait. Il s'agit simplement de voir les chiffres. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Moi, je me promène sur les autoroutes des Laurentides, comme toi d'ailleurs, Fabien, et je suis flabbergasté par le nombre de gros véhicules, je me dis, qui tirent souvent des skidoo puis des bateaux, puis je me dis, mais pourquoi ces gens-là vivent comme ça? Pourquoi ne se contentent-ils pas simplement de louer un skidoo pour une fin de semaine au lieu de l'acheter? Et ils réaliseraient des économies ahurissantes qu'ils pourraient canaliser sur un meilleur voyage dans le sud ou simplement acheter une maison.
Le Britannique Felix Dennis, qui a eu beaucoup de succès dans les années 80 avec des guides Computer Life de ce genre-là pour le nouveau marché de la micro-informatique. Et lui a cité quelque chose de vulgaire, et je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui l'ai mentionné, là, mais je le cite parce que c'est rigolo, mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Tout ce qui vole, flotte, roule ou se baise devrait se louer.
Absolument. Il a absolument raison, malgré le petit côté scabreux. Il a raison. Je te vois te marier à l'écran, Fabien. Tu as bien raison. Mais ton auteur est en plein dans le mille. C'est posséder, ça coûte cher parce que généralement, il faut le financer. Mmh. Et la seule possession qui coûte cher et qui doit se financer pour une majorité d'entre nous, c'est la maison, mais c'est le seul actif qui perd pas autant de valeur ou qui perd pas de valeur comparativement au skidoo, au bateau et à la voiture, en effet.
Ouais, et puis dans ton guide, là, si tu y vas chapitre par chapitre, qu'est-ce que tu crois qui est intéressant comme démarche pour le lecteur, bien que je suis sûr que tes chapitres peuvent être indépendants, qu'est-ce que tu recommandes?
Bien, je recommande d'utiliser les systèmes en ligne. Je recommande surtout, là, avant de commencer, je recommande aux gens de s'adresser à des conseillers financiers comme toi, par exemple, pour faire leurs petits calculs et surtout miser sur les produits financiers qui vont te permettre d'épargner à l'abri de l'impôt le plus possible pour pouvoir acheter une maison. Par exemple, on met un certain montant dans son REER pour être capable de rapper quand on est jeune. On met un peu d'argent dans son CELI pour être capable de sortir de l'argent du CELI à un moment donné si on veut s'acheter une maison ou simplement financer ses vacances, ses cadeaux de Noël ou sa rentrée scolaire. Ces produits-là, ce n'est pas des produits, c'est des moyens d'épargner de l'impôt dans lesquels on investit dans des produits financiers. Il faut savoir lesquels produits financiers utiliser. Et ça, un conseiller financier va pouvoir te le dire. D'autre part, il y a aussi d'autres moyens, comme par exemple le CELIAP, qui est un nouveau mélange entre le CELI et le RAP qui permet d'accumuler de l'argent pour être capable de se payer une maison. Il y a bien des moyens d'épargner qui sont à la portée de monsieur, madame, tout le monde. Il s'agit simplement de se documenter. Je reviens, tu sais, prendre le contrôle de sa vie, là, pas être au service du système, mais mettre le système à ton service. C'est en se documentant qu'on y arrive.
Est-ce qu'il y a une conclusion à ça? Quelqu'un qui a les moyens d'acheter une maison et se pose la question, est-ce que je loue ou j'achète mon domicile? Est-ce que tu as une réponse générale?
La réponse est bien simple. Si tu es capable de te contraindre, il y a un calculateur dans mon livre de l'Autorité des marchés financiers qui fait la différence entre acheter et louer et qui te montre combien tu peux épargner. Si tu es capable d'épargner ce montant-là par mois, par paye, si tu es capable de te contraindre à épargner, reste locataire. Si, évidemment, tu es heureux et satisfait de ton statut de locataire. Le statut de locataire te permet d'accéder à des quartiers que tu ne pourras jamais te payer comme propriétaire en passant, des quartiers extraordinaires. Mais certaines personnes aiment aussi être locataires en région. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de logement à louer en région. J'y habite, je le sais. Ceci dit, si tu es capable de rester locataire et de te contraindre à épargner la différence entre un loyer et une hypothèque, all the way, c'est vraiment la meilleure des solutions. Et au bout d'un certain temps, tu sais, Fabien, la contrainte ne devient plus une contrainte, ça devient une habitude, une seconde nature. On vit très, très bien en épargnant une très forte proportion de son revenu. On est capable de le faire parce qu'il y a toutes sortes de moyens de bien vivre. On a une belle qualité de vie malgré tout, sans nécessairement tomber dans le piège du consumérisme.
Est-ce que tu es quand même allé dans ton ouvrage à faire des projections pour l'avenir? De quoi peut avoir l'air l'immobilier dans le futur au Québec, au Canada?
Non, parce que c'est tout simplement difficile à prévoir, parce que l'immobilier, contrairement à ce qu'on pense, ça augmente pas tout le temps. Il y a de grandes périodes de l'histoire du Québec où les valeurs des maisons ont stagné pendant 10 ans ou ont même chuté dramatiquement pendant des années ou des mois. C'est le cas d'ailleurs depuis la pandémie. La valeur des maisons au Québec, outre certains marchés très spécialisés comme Tremblant ou le Vieux-Montréal ou Westmount, et encore, la valeur des maisons a chuté dramatiquement ces derniers mois et elle n'a pas repris du poil de la bête par rapport à la période pré-pandémique ou le début de la pandémie. L'immobilier, ce n'est pas une garantie que ta valeur va monter éternellement. Et ça, hein, tu le sais comme conseiller financier, l'immobilier, c'est comme tout autre placement. Il faut sortir de ça au bon moment. Si tu sors dans une période prolongée où les valeurs immobilières se sont écroulées, ben tu perds ton fric.
Puis de ce côté, quand c'est son toit, c'est son habitation, faire des transactions précipitées, il faut quand même se reloger ailleurs, là.
Oui, et en matière de finances personnelles, tout est question de planification. Il faut planifier. Il faut diversifier ses placements, mais il faut planifier. Il faut être capable de dire, de prévoir, si je sors du marché immobilier parce que j'ai 70 ans, je suis écœuré de m'occuper de ma maison, puis je vais aller ailleurs, soit dans un condo ou dans une résidence, bien, il faut prévoir une sortie où on ne perdra pas énormément d'argent. C'est difficile parce que il y a seulement dans le film Back to the Future où il y a quelqu'un qui a réussi à prévoir l'avenir et à s'enrichir. C'est le seul moment dans l'histoire où je peux vraiment dire que cette personne-là avait les moyens que toi et moi n'avons pas.
Merci de ton temps, Stéphane. J'invite les gens à se procurer, louer ou acheter le guide ultime pour prendre la bonne décision aux éditions du journal. C'est disponible maintenant en librairie. Si vous souhaitez l'acheter en ligne, vous pouvez le faire en encourageant les petits libraires en allant tout simplement à leslibraires.ca. Vous pouvez le commander, le recevoir et même avoir la version numérique qui sera disponible bientôt, j'espère. Et merci là-dessus, Stéphane, puis bon succès en librairie avec louer ou acheter.
Planifiez mieux avec le balado Le Planif.
Voici venu le moment de notre question du beau-frère de la semaine. En passant, pour ceux qui souhaitent nous écrire, une question du beau-frère, c'est quoi exactement? C'est une question plantée d'une affirmation qui soutient un conseil souvent trompeur ou inspiré de mythes et croyances. Le beau-frère Tidio connaissant ou pseudo-influenceur, ben ceux-là, ils prennent leur opinion pour des conseils et croient à tort que ce qui convient pour eux est pertinent pour tout le monde. Attention, on peut bien avoir un beau-frère planificateur, CPA ou conseiller inscrit aux autorités de marché, et ceux-là, ils savent de quoi ils parlent, c'est leur métier, c'est leur profession, mais ils font alors preuve de prudence et de retenue dans leurs réponses. Alors Ludovic nous a écrit, il dit « J'ai commencé et je prévois continuer à faire des cotisations au CELIAP afin d'acheter une propriété dans environ 3 à 5 ans. On m'a déjà conseillé de garder ces sommes d'argent en liquide ou dans un compte d'épargne à intérêt élevé. » Ouais, ça m'a tout l'air d'être un conseil de beau-frère, ça. Est-ce vraiment une bonne idée d'investir justement dans des comptes d'épargne intérêt élevé pour le CELIAP ou il y a d'autres types de placements qui seraient plus appropriés dans cette situation? Oui, effectivement, il y a plein d'autres types de placements qui seraient appropriés. Mais votre horizon est-il de 3, 4 ou 5 ans? C'est sûr qu'avec le CELIAP, si on a 5 ans plein, ben là, c'est pas mal différent puisque on aura la somme maximum des 8 000 par année avec évidemment le retour fiscal qui peut être placé dans un CELI. On aura aussi évidemment la croissance composée des intérêts. Et pour ça, il faut y en avoir. Est-ce qu'on en a suffisamment dans les comptes d'épargne à intérêts élevés? On en avait pas pire dans les dernières années, 4-5 %, mais ça tire à sa fin parce que les taux vont baisser. Ça favorise les obligations, Ça favorise les actions. Alors, on pourrait très bien avoir un portefeuille modéré qui peut contenir quelque chose comme 20-25% en actions et le reste en obligations, une partie importante en obligations court terme. Je ne pense pas que ce sera risqué pour cet horizon-là, mais si on est plus près des 3 ans, alors il faut avoir une très grande partie de revenus fixes, c'est-à-dire des obligations, de la liquidité. Évidemment, ça dépend de son profil d'investisseur. Puis c'est la première démarche que doit faire Ludovic, de remplir son questionnaire de profil d'investisseur et de valider, voir si ça le chicoterait vraiment de subir une certaine volatilité. Mais il n'y en aurait pas beaucoup. En ce qui concerne les obligations, je pense que ça peut être relativement faible, surtout si ce sont des obligations ou des indices ou des fonds avec des obligations de courte durée. Voilà, ça termine cet épisode pour aujourd'hui. N'oubliez pas, pour les archives complètes des épisodes du Balado Le Planif, consultez le site baladoleplanif.com. Ici Fabien Major. À bientôt.